introduction à l'histoire des idées dans la revue, je souhaiterais vous tracer le cadre dans lequel celles-ci ont pris forme et se sont développées. C'est au sein de l'UFR de sciences humaines cliniques à Paris 7 que l'aventure débuta. L'histoire des idées concernant l'adolescence fut une histoire d'institution. Il y eut le souhait de Philippe Guton, en 1982, alors qu'il était récent professeur, d'ouvrir un département spécifique à la théorisation de l'adolescence dans le laboratoire de psychopathologie et de psychanalyse dirigé par Jean Laplanche. L'idée était d'isoler, comme Philippe Guton l'a dit tout à l'heure, et de différencier l'adolescence comme ensemble processuel original daté par sa parution pubertaire. Parallèlement, Philippe Guton se proposait de développer un secteur de publication à ce propos dans la revue Psychanalyse à l'université, à laquelle il œuvrait depuis sa création. Le conseil scientifique s'y opposa unanimement, ce projet semblant heurter la conception unitaire de la psychanalyse et de ses institutions. C'est donc dans ce contexte de scission que le premier numéro de la revue Adolescence, titré Psychothérapie, parut indépendamment, en 1983. Deux ans après, en 1985, Philippe Guton s'engageait dans un travail de création institutionnelle, solidement aidé par Annie Biraud et Alexandra Triandafilidis. Il ouvrit alors l'unité de recherche sur l'adolescence, URA, dans la maison Censier. Cette innovation, alimentée par une sensibilité aux différences des pratiques et théories, ouverte aux enjeux des positionnements selon les âges de la vie, s'opposait au totalitarisme conceptuel de la psychopathologie analytique. Pensait-on à l'époque que Philippe Guton faisait une crise d'adolescence en initiant ce mouvement de séparation-individuation? Devant le peu de considération de la part de l'UFR, les débuts furent assez discrets, mais l'élan était amorcé et l'enthousiasme des étudiants-chercheurs bien présent. Les fameux mardis matins de l'adolescence ouvrirent à conférences, débats et théorisations. Dans le bureau qui avait été alloué par Paris 7 à l'URA, entre machine à écrire, papier crayon et ouvrages regroupés sur le thème de l'adolescence, une véritable bibliothèque naissait. Ici, étudiants, chercheurs, cliniciens se côtoyaient. Conseils, enseignements se prodiguaient, des journées scientifiques s'organisaient et la revue s'y élaborait. Tout cela dans une ambiance fort artisanale et très créative. À la suite de l'URA, d'autres laboratoires de recherche se créèrent, tels l'unité de Sophine Demijola-Meyer, puis le laboratoire de psychopathologie fondamentale et psychanalyse de Pierre Fédida. Dans cette mouvance, l'unité de recherche sur l'adolescence fut secondement admise en interne à Paris 7, puis habilitée au plan national comme équipe d'accueil et inscrite au sein des nouveaux troisième cycles. Sa vie universitaire se prolonge aujourd'hui sous le titre d'équipe de recherche sur l'adolescence, l'ERA, sous la direction de François Richard. Et c'est au départ de Philippe Guton pour l'université d'Aix-en-Provence que la revue fut transférée à son cabinet parisien. Revenons quelque peu en arrière à la naissance de la revue. Elle fut provoquée par la réunion de textes issus de la journée scientifique dont je parlais précédemment et organisée par Philippe Jamais et Philippe Guton en octobre 82. Cette journée était consacrée à la psychothérapie psychanalytique à l'adolescence. Les signatures étaient celles d'Annie Biraud, Alain Braconnier, Bernard Brusset, Raymond Kahn, Jean-Luc Denet, Jacques Hochmann, François Ladame et Moses Laufer. Quoique fort apprécié par le comité de lecture de psychanalyse à l'université, dont Philippe Guton faisait partie, cet ensemble fut refusé à publication dans une atmosphère de conflit. C'est ainsi que la revue Adolescence naquit, avec comme rédacteur en chef Philippe Guton et comme co-rédacteur étranger François Ladame. Les membres du premier comité de lecture réunissaient les participants du colloque. Ce premier numéro fut coordonné par Alexandra Triandafilidis. Elle quitta ses fonctions de rédactrice en chef en 1985 et je lui succédai. La publication fut soutenue par le Comité national du livre grâce à l'intervention de Jean Laplanche et d'Yvon Bresse. Le CNL apporte encore aujourd'hui son soutien financier. Nous reçûmes rapidement des subventions de l'Université Paris 7, auxquelles succédèrent celles d'Aix Puis, en 2012, à nouveau, Paris 7 apporta son concours. Dès les premiers numéros, le cadre fut posé. Parution semestrielle, sous les éditions Krupp, numéro thématique de 220 pages, principalement issu des journées scientifiques organisées en octobre chaque année, couverture blanche avec le dessin de Cocteau et le titre en rouge, ce qui vous est familier. Nous sommes restés fidèles à cette présentation, exception faite d'un intermède de 2 années, en 1994 et 1995, où nous fûmes publiés par les éditions Bayard. Des tags remplacèrent alors le dessin de Cocteau. Et c'est en cette année 2013, pour fêter les 30 ans de la revue, que vous avez pu découvrir la nouvelle présentation, quelque peu modifiée, et avec un changement de couleur, donne dans le vert. Le contenu était élaboré sous la direction du comité de lecture, garant des bases fondamentalement psychanalytiques et de la qualité des articles. Ce comité va se déployer au fil des années. Y participeront Catherine Chabert, Jean-José Baranès, Patrice Huer, Daniel Marcelli, François Marty, François Richard et Bernard Penaud. Ce comité comptera 20 membres. D'autre part, une nouvelle génération d'auteurs a permis l'ouverture des théories propres au terrain. Citons Jean-Yves Lefourne, Olivier Auvry, Philippe Givre et d'autres. Les arguments théoriques sur le modèle freudien s'enrichirent aussi de recherches lacaniennes avec Jean-Jacques Racial et Serge Lesourd. Dès 1983, la revue proposa également des bibliographies thématiques. Elles furent pour beaucoup élaborées à l'URA. Citons celles sur la féminité, le masculin, l'homosexualité, la dépression et la psychose. À partir de 1990, des dossiers signalés par un liseré rouge apparaissent, où thèmes et concepts transversaux offerts par la clinique y sont travaillés. Un dossier épidémiologie avec l'INSERM, un dossier histoire avec Michel Perrault, un dossier sur la formation au travail psychanalytique avec les adolescents, coordonné par François Ladame et Raymond Kahn, un dossier anthropologie, organisé par Olivier Douville, des dossiers lecture. Fidèle à son intitulé « Revue de psychanalyse, psychopathologie et sciences humaines », au fil des années, se firent de plus en plus nombreux les dialogues et échanges entre psychanalystes et psychologues cliniciens et d'autre part chercheurs en anthropologie, en philosophie, en psychosociologie, avec le monde du politique, le champ éducatif, social et linguistique. Aujourd'hui, le dialogue entre psychanalyse et neurosciences s'ouvre avec la collaboration de Jacques Dayan. C'est ainsi qu'à partir des années 2000, les dossiers ne suffirent plus à refléter notre désir d'ouverture à toutes ces disciplines pensant l'adolescence. Des numéros entiers furent alors consacrés à cette évolution du dialogue interdisciplinaire. Citons par exemple des volumes sur le thème du virtuel, sous l'élan de Serge Tisseron, de la ruée de la cité avec Joël Bordet, du langage adolescent avec Jean-Pierre Goudaillé, du politique avec Roland Gory, des maisons des adolescents avec Marie-Rose Moreau. Aujourd'hui, une rubrique créée là en 2012 intitulée « Dehors » et gérée par Isée Bernato, Fanny D'Argent et Anne Tassel offre aux auteurs la possibilité de rendre compte de leur curiosité du monde contemporain adolescent à travers des films, des livres, de la musique. Notons qu'en 2001 et 2002, la revue fut honorée des prix décernés à 2 auteurs pour leur publication dans la revue. Le prix Evelyne et Jean Kestenberg à Dominique Agostini pour sa monographie « Après Mélanie Klein » et le prix Pierre Malle à Serge Lazarovici pour l'ensemble de ses articles parus dans la revue Adolescence. En 2002, devant le nombre croissant d'articles publiables et le volume considérable des ouvrages, nous décidâmes de passer à 4 numéros par an. Énorme progression. Pour la contenir, une nouvelle organisation scientifique et matérielle de la revue a dû être mise en place. Ainsi, un séminaire de recherche est alors ouvert sous la direction de Philippe Guton pour compléter le travail du comité de lecture. Celui-ci a pour tâche de penser les futurs numéros, de solliciter les potentiels auteurs d'articles, de lire, commenter et sélectionner les textes reçus. Il se réunit tous les 2 mois. La revue dépend largement du travail et de la créativité de ces spécialistes de l'adolescence, auto-érosisation et terrains cliniques variés. Ce groupe, réunissant de plus jeunes cliniciens et universitaires, source de renouvellement des idées, s'est élargi au fil du temps. Aujourd'hui, ce séminaire porte le titre de comité de lecture. Il est présidé par François Richard, avec pour secrétaire général Fanny Dargent, et regroupe 25 membres. L'ex-comité de lecture est réintitulé « Conseil scientifique » et réunit les membres fondateurs de la revue. Depuis sa création, la revue a organisé nombre de journées scientifiques en France. Elle a collaboré et participé également à des colloques hors frontières, et ce, grâce aux liens que les représentants de la revue ont su tisser avec l'étranger. Elle en a rendu compte en les publiant en totalité ou en partie dans ses numéros. De plus en plus connue et reconnue, la revue est indexée à l'AERES et figure au listing PsycINFO. Citée dans des publications et travaux français, elle est aussi régulièrement traduite en espagnol, en portugais et en italien. La revue Adolescence entretient une étroite relation avec la revue italienne Adolescenza e Psicoanalisi, dirigée par Gianluigi Moniello. Après ce parcours d'élaboration des idées et du recueil des articles publiables, la seconde étape consiste en la fabrication du volume. Les soins vigilants que nous y avons toujours apportés ont nécessité là aussi, du fait de l'expansion de la revue, la mise en place d'une équipe de plus en plus étoffée. Dans ses premières années, Philippe Guton, dans les premières années de la revue, Philippe Guton, deux traductrices pour les résumés des articles et moi-même pour la mise en forme et les corrections, œuvraient seules à la réalisation. Depuis 1999, Chantal Cousin est devenue progressivement le maître d'œuvre de ce considérable secteur de la revue. Elle effectue la coordination du travail entre les différents membres de cette équipe et réalise l'entière fabrication des numéros sur ordinateur, exception faite de l'impression sur papier, confiée par PDF à un imprimeur. Cette dite équipe réunit aujourd'hui trois personnes qui relisent et corrigent les articles retenus pour publication, et ce avec mon soutien. Arlène Domit-El-Khoury, Stéphanie Péchikoff et Delphine Bonichon, qui a relayé Nathalie Guillet-Pazu tout récemment. Cette étape nécessite un travail fort rigoureux et qui signe également la grande qualité de la revue. D'autre part, trois personnes assurent les traductions. Route de la Vega pour les résumés d'articles en espagnol, Elisabeth Kelly-Penaud traduit les résumés et les textes en anglais, François Spino assure la traduction en français des textes italiens. Depuis longtemps, la revue publie en français des articles venus de l'étranger. Nous pensons à ceux de Moses et Eglé-Lofer, entre autres. La création d'un comité de lecture en langue étrangère s'est avérée nécessaire. Il réunit 5 personnes du fait de l'élargissement de cette activité traduction. Cette ouverture sur l'international s'est concrétisée en 2011 par la mise en ligne d'une monographie en anglais regroupant des articles déjà parus dans la revue sur le thème des paradoxes à l'adolescence. Une deuxième monographie est actuellement en préparation. Par ailleurs, nombre de numéros de la revue sont actuellement épuisés. Nous avons donc fait le choix de réunir les articles les plus demandés sous forme de monographies, tels les volumes titrés « Sexualité »,« Affliction », »,« Psychose », ainsi que le volume « Pubertaire savant » qui regroupe un certain nombre d'articles rédigés précédemment par Philippe Guton. Une monographie à propos du psychodrame est en cours de réalisation. Chantal Cousin assume la fabrication de tous ces volumes. Une revue ne peut vivre que si elle est largement connue, diffusée et vendue. Là encore, toute l'équipe participe grandement à cette action. Chantal Cousin d'autant plus. Elle y participe par la publicité qu'elle développe, par sa gestion pointue des abonnements, par la vente au numéro dans les multiples colloques où elle est présente. Et bien sûr, révolution numérique oblige, Internet est devenu l'outil de diffusion incontournable. Si la revue a fait ses premiers pas dans ce domaine dès 1999, c'est aujourd'hui qu'elle est fière de son nouveau site, créé avec la collaboration de Jacques Dayan et avec le professionnalisme d'un webmaster, Adrien Wiedemann. Les articles de la revue sont également diffusés et vendus en ligne par Cairn Info. Ainsi, Ai-je résumé, certes de façon assez succincte, le parcours de la revue qui reflète bien évidemment, à travers ses publications, l'évolution des pensées concernant l'adolescence, ce que nous allons voir maintenant. Mais auparavant, je voudrais juste rendre hommage à Philippe Guiton, qui a su, par son dynamisme et sa créativité, entraîner dans son sillage toute une équipe qui prolonge l'aventure de la revue, avec aujourd'hui un comité directeur constitué de Jacques Dayan, François Richard et Philippe Guiton même, et un conseiller de la direction, François Marty.